Donc la mafia revient en Sicile, je dirais dans les fourgons de l'armée américaine, et va s'installer durablement et efficacement, on va dire, déployer toute sa puissance dans les années 50, dans les années d'après-guerre. Elle reprend pied, voilà. Quelques guerres fratricides toutefois. Première guerre au sein de la mafia entre familles, 62-63, et, par exemple, à cette époque, 7 policiers sont tués dans le désamorçage d'une voiture piégée, et donc le gouvernement pratiquera, obligé de réagir, bien qu'on le sait, passif, et passivité complice, hein, le plus souvent, 2000 arrestations sont pratiquées, et la mafia rentre dans la, elle se fait sous-marin un petit peu, et on sait qu'elle n'est jamais aussi dangereuse que cette pieuvre que quand elle se retire dans les bas-fonds. Elle ne fait plus parler d'elle. Il y a une enquête parlementaire qui va perdurer de 62 à 76. Alors, ça donne une idée de son efficacité, hein, puisque 14 ans, voilà. Donc, c'est plutôt pour la galerie, pour amuser, pour jeter un peu de la poudre aux yeux. Deuxième guerre intramafieuse, 81-83, qui fera la 1000 morts. Et ce sont les Corléanais, le clan des Corléanais, qui va prendre le pouvoir avec des hommes connus qui appartiennent, bien sûr c'est l'histoire contemporaine, Luciano Ligio, par exemple, Salvatore Rima, Toto Rina, ou Riina, et Bernardo Provenzano. Voilà. Donc, ils s'implantent, ils prennent le pouvoir. Donc, c'est Corléanais contre les autres familles de l'île. Et puis, ce sont des vengeances, presque des vendettas, là, pour le coup, hein, style corse, au sein des familles, donc, par le sang. Et là, ils tuent tout. Hein, les tueurs tuent non seulement les rivaux, mais ils tuent les femmes, les enfants, les vieillards. Hein, c'est un vrai massacre. Et puis, ils tuent aussi des personnalités gênantes, on l'a dit, donc des magistrats, des policiers, des journalistes, des élus intègres. Et par exemple, le député communiste Pio La Torre est exécuté, et il va, je donnerai la date, hein, je ne l'ai plus donné, mais dans ces années 80, et donc le gouvernement là, va toujours poudre aux yeux nommer le général Carlo della Chiesa. Carlo Alberto della Chiesa comme préfet de Palerme. Alors c'est un petit peu comme un successeur de Mori, Cesare Mori, mais là il n'y a pas de volonté. Je dis c'est un geste purement pour amuser, hein, si on peut dire, l'opinion publique. Ce préfet est envoyé à l'abattoir. Hein. Il s'était illustré dans la lutte contre les brigades rouges, mais le gouvernement ne lui donne pas des moyens. Et on l'a dit, c'est une opération poudre aux yeux, une opération vitrine. Et il est abattu le 3 septembre 1982. Et vous avez peut-être vu le film Les 100 jours de Palerme de Guido Ferrara avec Lino Ventura dans le rôle du préfet. Voilà. Et puis donc, il y a ceux qui combattent la mafia. La mafia s'intitule, on y parle des hommes d'honneur. C'est l'honorable société. Mais les vrais hommes d'honneur, en fait, ce sont bien sûr ceux qui luttent contre elle, ces vrais héros. Courageux, souvent parfois isolés, qui à l'aide des repentis vont mener de vraies enquêtes et combattre cette pieuvre, combattre ce démon, on va dire, insaisissable. Et notamment parmi ces repentis, Tommaso Buscetta, qui va livrer, alors rompre l'omerta, et va livrer beaucoup de secrets. Et donc, tribunal de Palerme, maxi procès en 86-87. Il y a aussi le pool anti-mafia qui est créé au sein de la police, de la justice, hein, l'opération Manupulite, main propre. Donc 474 accusés, 119 sont condamnés par contumace, 360 condamnés, physiquement on va dire, et la Cour de cassation confirme, italienne, en 1992, les condamnations. Et donc, il est établi donc l'institution, l'organisation, les rituels de la mafia, je vais y revenir. Les Corléanais vont se venger. Donc ils ont une liste, une blacklist, hein, toujours. Et notamment, un politicien, Solvolima, est assassiné le 12 mars 1992, quelques noms parmi une longue liste, et puis on le sait, les deux juges célèbres, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, les juges anti-mafia, pourtant protégés par des escortes puissantes, toujours 24 heures sur 24, comme le sont toujours ces juges et ces policiers anti-mafia. Et, enfin, ils sont protégés par la police, par des gardes du corps. Ben, le premier, 23 mai 92, le second, 19 juillet 1992, ce sont des bombes qui sautent et qui tuent des gardes du corps. La femme de l'un des juges aussi, je ne sais plus si Falcone ou Borsellino, qui était juge aussi, est tuée avec lui. Enfin, c'est des bombes qui explosent et qui font des morts, peut-être une dizaine de morts. Voilà. Alors, Tono Riina est arrêté, Riina, en 1993. C'est un vieillard, il est toujours en prison, alors il est né en 1930. Voilà. Il est l'instigateur, probablement, il a tué lui-même 40 personnes, et il a commandité à peu près 1000 crimes, c'est une évaluation approximative. Et Bernardo Provenzano, alors là, c'était également un grand chef, un parrain, donc de Palerme. Lui, il a été arrêté le 11 avril 2006, après 43 ans de clandestinité. Vous avez vu sur les médias, il y a une dizaine d'années, c'était exceptionnel. Il a été arrêté, et donc ils sont toujours en prison. Là aussi, c'est un vieillard, il est né en 33, ils ont 86 ans. Voilà. Et puis j'ai parlé d'Andreotti, président du Conseil italien, cette fois président du Conseil, qui a collaboré à l'évidence avec la mafia, même s'il n'a jamais pu être inquiété. Alors Berlusconi aussi, on peut supposer qu'il avait aussi les mains pas très propres. Enfin, mais pour Andreotti, c'est une évidence. Alors je vais vous parler maintenant des mythes, des rites de la mafia. J'en avais un peu parlé la dernière fois. Bon, mais c'est un petit peu du folklore, mais un folklore réel et sanguinaire, on va dire. Et donc, elle pratique l'impôt, le pizzo, on le sait, sur toutes les activités, le racket, toutes les activités, aussi bien les activités de jour que de nuit, je dirais. Toutes les entreprises sont mises en coupe réglée. Voilà, c'est donc cette côté société secrète dite honorable. Alors pour être éligible, il y a un rite d'entrée. Il faut être sicilien par le sang, père et mère sicilien. Seuls les hommes sont acceptés. Il faut être catholique, ne pas être divorcé et non apparenté à un magistrat ou à un fonctionnaire. Alors les obligations, les qualités, c'est la discrétion, enfin les trois qualités et trois engagements, un peu comme trois vœux religieux: discrétion, obéissance, implacabilité. Quand on vous dit tuer, vous devez tuer. Et il y a des codes, donc donc un rite d'initiation inspiré de l'Église catholique, du baptême et aussi des francs-maçons. Donc il y a une sacralisation, on le sait, une prestation de serment devant le groupe des mafieux locaux, et puis le décalogue sur les règles sont énoncées. Alors ne pas par exemple ne pas voler, enfin à titre individuel, ne pas pratiquer la prostitution ni l'adultère à l'égard d'un autre mafiosi ou mafioso, etc. Pas d'alcool, pas de jeu, il faut qu'il soit pur et dur, si on peut dire, sans faiblesse, et bien sûr l'omerta. Ils sont engagés jusqu'à la mort. Il y a ce rite où je ne résiste pas à à nouveau le rappeler, qui est avec une épingle, on fait saigner le doigt qui tient la gâchette sur une image de la Madone de l'Annonciation. Ensuite, on brûle, l'image est brûlée entre les mains du nouveau membre, de celui qui adhère, du catéchumène, on dirait. C'est le symbole de sa nouvelle vie. Il appartient désormais corps et âme. Il y a aussi cette notion d'humilité. Il se donne pour sa secte. Voilà. Et puis alors, la première mise à l'épreuve, c'est un meurtre. Il faut qu'il tue. Il y a toujours, cette liste noire, un traître ou un rival. Alors les ecclésiastiques, les fonctionnaires en sont dispensés. Donc l'omerta, je n'y reviens pas, là c'est la règle de base fondamentale. Et puis, quant à l'organisation, alors Tommaso Buscetta, on le sait, lui, il est repenti, viole cette règle de l'omerta. La structure est pyramidale, donc ce sont des familles à la base, qui, je l'ai dit, on le sait, ce sont des familles associées, ce ne sont pas des liens du sang, Donc ils tiennent chaque famille un quartier, voire un bourg, voilà. Et ils ont les mafieux de base, ce sont les mafieux de base, ce sont des soldats. Hein. Les soldats, ils sont 10. C'est un peu le système des dizainiers, hein, vous savez, on connaît ça un petit peu dans les sociétés secrètes. Ils sont 10 et chacun désigne un chef. Et ils élisent un chef qui constitue donc eux-mêmes des grands électeurs. Ils sont à peu près des grands électeurs, en quelque sorte, qui élisent quelques familles, élisent au niveau du canton, un chef au niveau du canton. Et les cantons eux-mêmes, les chefs de canton, alors toujours ces grands électeurs, hein, c'est un peu comme le Sénat, ils élisent les représentants à un niveau national. Donc, et au niveau national, c'est une commission ou coupole qui est un conseil souverain. En fait, c'est une sorte de cour suprême qui décide des arbitrages, qui est le juge de paix. Donc, cette coupole prend les décisions importantes aussi en matière d'homicide, par exemple, pour éliminer les personnalités au niveau des marchés. Public trafiqué, ce sont eux qui prennent les grandes décisions et qui règlent les conflits. Et notamment, il y a aussi une pratique des mariages. Les femmes n'ont pas voix au chapitre, mais elles jouent le rôle de pion dans les mariages. Ils sont utilisés, hein. On unit notre fils et notre fille pour faire la paix. Voilà. Ça interfère dans les traités de paix et ça crée aussi, là aussi quand même, une notion d'héritage, de transmission par les liens du sang. Voilà. Après la pause musicale, je vous parlerai plus précisément de la réimplantation après-guerre dans les années 50 du retour aux affaires de la mafia en Sicile. Donc nous y revenons après la pause musicale.